Bonjour à tous. Je vous laisse vous finir de vous installer. Je commence par un petit message. On va devoir terminer assez rapidement la table ronde et je vais vous demander à ce moment-là de tous sortir pour faciliter les entrées-sorties de cette salle qui est un petit peu limitée en termes d'accès. Donc si à la fin de voilà, à 13h, je vous demande même un petit peu avant 13h, on va tous converger vers l'extérieur de manière à laisser les gens rentrer. OK ? Je leur dirai de toute façon. Bien. Alors, nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui est le gameplay. Alors pas n'importe quel gameplay. Excusez-moi, j'ai failli sectionner un câble. Pas n'importe quel gameplay, celui qui s'inscrit dans un cadre particulier, qui est celui du jeu de rôle. Avant de poursuivre, je vais laisser mes invités se présenter, les uns après les autres. Honneur aux dames, peut-être. Si tu veux commencer, Guylaine.
Hop, ça marche, faut appuyer nulle part. Parfait. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi, je suis Guylaine Lemignot. Dans le jeu de rôle, je suis un peu touche-à-tout. Je suis autrice, podcasteuse aussi chez Radio Rôliste et chez Proxy Jeux. Et également membre de la rédaction du blog Et pourtant elle joue.
Je m'appelle Sébastien Lefineau, je suis auteur de jeux de rôle et de jeux de plateau, d'un peu de théorie sur ces sujets-là, podcaster sur un truc qui s'appelle les carnets ludographiques et qui est récemment, enfin qui il y a un an est passé de Radio Rôliste, qui a fait sécession et qui existe maintenant sur le blog Memento Ludi. Et je participe à plein de rédactions de jeux de rôle rôlistes, de magazines rôlistes, c'est une meilleure phrase.
Bonjour, je m'appelle Sarah Newton, je suis écrivain de jeux de rôle et de fiction, et aussi co-directeur de Mindjammer Press. Nous éditons le jeu de rôle Mindjammer, qui est en train de sortir en français, en langue française maintenant. Et je m'intéresse beaucoup au sujet de gameplay. Et j'écris et publie les jeux de rôle depuis à peu près 10 ans.
Je m'appelle Thomas Munier. Merci à vous d'être là. Il y a du monde, ça fait super plaisir. Donc moi, je fabrique des jeux de rôle artisanaux, principalement qui se passent dans l'univers forestier de Millevaux. Et je fais aussi des jeux de rôle qui se passent dans des rêves. Et j'ai un petit blog qui s'appelle Outsider qui parle de créativité où vous allez retrouver tout mon matos dessus.
Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Noémie Rock, donc je ne suis pas sur le programme, mais je me suis un peu rajoutée à la dernière minute. Voilà, je suis un bonus. Et quel bonus en plus. Donc je suis étudiante en sociologie et j'ai notamment travaillé sur le jeu de rôle dématérialisé et sur ce qu'apporter ou ce qu'enlever éventuellement les outils numériques, dont les tables virtuelles, les forums, au jeu de rôle. Voilà.
Merci à vous. Je vais commencer par une première question qui va nous permettre d'avoir un cadre pour commencer. Je vais vous demander à chacun de me définir ce que c'est que le gameplay en jeu de rôle. Pas tous à la fois, surtout.
Bon, bah du coup, on va reprendre l'ordre de présentation, chacun son tour. Hein. Pour moi, le gameplay, on en avait déjà parlé un petit peu auparavant, ça va être toutes les possibilités d'interaction. Alors, c'est une définition parmi un milliard, bien sûr, hein, c'est le principe. Les possibilités d'interaction entre le joueur et la partie.
Je vais balayer un petit peu devant ma porte, ayant écrit pas mal sur le gameplay. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de définitions. Et on a trois problèmes conceptuels par rapport à ces définitions. On ne les a pas inventées, on les a piquées au jeu vidéo. Donc elles sont toutes taillées pour le jeu vidéo au départ. Et on fait ce qu'on peut pour les réutiliser. Donc c'est du recyclage, hein, soyez prévenus. Le deuxième problème, c'est qu'il y a plus de définitions du gameplay qu'il n'y a de genres ludiques différents. Ce qui veut dire que le cadre, en termes de vocabulaire, est vraiment trop large et qu'il faut qu'on arbitre et on n'a pas fini. Donc, on n'a pas tous la même définition, on n'inclut pas les mêmes choses dedans. Pour moi, le gameplay, c'est un niveau très large, l'usage du jeu. C'est pratique, c'est hyper inclusif, mais ça raconte rien. Donc, ça contient notamment ce que Guylaine a cité, c'est-à-dire d'abord les possibilités d'action au sein d'un jeu. C'est pas tout à fait ce que tu as dit, effectivement. Donc, c'est déjà une nuance. Et quand je dis c'est l'usage du jeu, c'est tout ce que vous pouvez faire avec et autour du jeu. Ce qui veut dire que s'il y a une culture qui se met en place autour d'un jeu, des gens qui développent des stratégies particulières, etc., ça fait partie du gameplay.
Pour moi, c'est tout à fait simple. Le gameplay, c'est l'expérience du joueur autour de la table pendant qu'on joue. Et ça veut dire aussi les meneurs de jeu. Mais alors, il y a deux sortes de gameplay, mais tout simplement, c'est l'expérience autour de la table.
Alors, j'avais prévu de troller joyeusement en balançant une grosse assertion qu'il me faudrait à peu près une heure pour étayer. Donc je vais pas le faire.
J'aime beaucoup cette discipline.
La question que je me pose, c'est est-ce que le jeu de rôle est seulement un jeu en fait ? C'est quand même une activité où la plupart du temps on fait tout sauf jouer. On va plutôt raconter une histoire, faire du roleplay, faire du hors-sujet en permanence, faire du commentaire de la mécanique et compagnie, regarder son portable. Enfin voilà. Olivier Carrera parle d'engagement faible. Donc, en fait, dans une activité où la part de jeu est si faible, on peut se demander si la question du gameplay est seulement pertinente. Bon, du coup, pour éviter de passer pour un gros imposteur, je vais quand même essayer de rentrer dans le sujet. La définition du gameplay, bah, j'aime bien si vous avez donné, ça recoupe celle que donne Dorian Chandelier hein, dans sa vidéo sur le gameplay. En jeu de rôle, on pourrait dire que gameplay, ce qui décrit mieux le gameplay d'un jeu de rôle, c'est le catalogue de récits potentiels qui contient quoi, les tropes. Quoi. C'est ce qui fait que jouer, c'est plus que raconter. Il y a une phrase de LG qui est vachement intéressante qui est « Le moteur du jeu de rôle, c'est le choix. » Donc on pourrait dire que le gameplay en jeu de rôle, ça s'axe là-dessus. Quoi. Alors les particularités du gameplay rôliste, en fait, y en a, la première, c'est le rôle. Et la deuxième, c'est l'émergence. Pour vous expliquer l'émergence, je pense que le mieux à dire, c'est que un jeu de rôle, c'est un jeu de société et on enlève des règles. Et c'est ce qui fait que les joueuses, en fait, pour que faire fonctionner le jeu, elles sont obligées de game designer en permanence, quoi. Et du coup, en fait, la base du gameplay du jeu de rôle, ce serait un gameplay incomplet volontairement. Alors je sais qu'il y a la thématique du temps aux utopiales. On peut aussi dire que la particularité du gameplay en jeu de rôle, notamment dans ce que j'appelle les jeux profonds, c'est-à-dire les jeux en campagne avec des gros univers, avec beaucoup de thématiques différentes, c'est qu'en fait on a une succession de gameplay dans le temps. Quand à Donjons & Dragons, quand vous progressez du niveau 1 au niveau 15, en fait à chaque fois vous découvrez un nouveau gameplay, quoi. Et puis, quand vous voyez toute la possibilité de création de personnages, en fait, c'est un catalogue de gameplay à choisir, quoi. Et on va en prendre que certains, quoi. En fonction des archétypes qu'on aura choisis, le gameplay en sera transformé.
Moi, je vais reprendre la dichotomie très, très pratique du game d'un côté et du play de l'autre, qui n'est pas forcément la plus pertinente, mais qui mérite quand même d'être amenée. Le game, en fait, est vu comme le dispositif, la structure du jeu, et le play est davantage vu comme l'attitude ludique. Donc, je vous renvoie aux travaux d'Henriot qui sont absolument fondamentaux. Mais il est fort probable qu'en fait, le gameplay ne soit pas juste d'un côté la structure et de l'autre l'attitude, mais soit vraiment une tension entre les deux et une réponse. C'est ce que vous mentionnez, justement. Et par rapport effectivement à la question du choix dans le jeu de rôle, lorsqu'on définit le jeu selon les courants de sociologie ou de sciences de l'éducation, l'un des critères qui revient pour définir le jeu, qui est extrêmement compliqué à définir, c'est le critère premier de la décision. C'est juste la question de l'engagement et de la volonté d'engagement du joueur qui décide et qui fait que décider tout au long du jeu de continuer à s'engager ou au contraire de briser les règles du jeu ou la structure du jeu.
Je te laisse réagir.
Oui, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on avait trois problèmes conceptuels pour définir le gameplay. Le troisième était le problème de la langue. C'est-à-dire que la distinction game et play est extrêmement pratique en anglais. En français, on dit jeu pour tout. L'objet est un jeu. Le bouquin que vous achetez est un jeu. Le temps que vous avez passé à jouer, c'était du jeu. Quand on commence à réfléchir à comment fonctionnent les règles, on dit « ouais, mais c'est la part de jeu du jeu de rôle ». Bref, on n'a qu'un seul mot pour désigner tellement de notions qui méritent d'être distinguées que c'est un merdier sans nom, en fait, de faire de la théorie du gameplay en jeu de rôle. Mais en s'inspirant de l'anglais et en réfléchissant un petit peu aux sources, éventuellement étymologiques, entre guillemets, par exemple, on ne sait pas d'où vient le terme gameplay avec une certitude complète. La théorie que je préfère, c'est une compilation de « How the games play », je vais la refaire, How the game plays, c'est juste pour et leur mère, qui était c'était le titre du petit écran introductif au début des jeux d'arcade. On suppose que le terme vient de là, mais on n'est pas tous d'accord et on ne peut pas le prouver, puisqu'on ne sait pas à quand remonte le terme.
C'est pour ça que je trouve qu'en français, et c'est pour ça que dans ma définition, je parlais de partie et pas de jeu, car pour moi, on peut travailler sur cette nuance-là avec le français, sur la nuance entre le jeu, qui est au final l'interface entre le joueur et la partie qui du coup va être l'expérience commune autour de la table et l'expérience individuelle à travers le jeu. Donc en ce sens-là, je trouve que pour le français, en tout cas, cette distinction en termes de vocabulaire peut être intéressante pour parler du gameplay.
Si vous voulez réagir sur le sujet. Ok, je rebondis sur ce que les éléments que tu as fournis, Thomas, et notamment tu as parlé d'émergence. Une notion qui apparaît régulièrement, c'est la notion de gameplay émergent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? À la volée.
La définition de départ en anglais pour le jeu vidéo du gameplay émergent, c'est on vous donne une série de règles. Elles ne couvrent pas tout ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire notamment les combinaisons de règles. Quand vous jouez à Skyrim, toutes les règles sont assez rapidement claires. Votre personnage a tel pourcentage de chances de réussir dans telle action. Il est capable de se déplacer de manière furtive. Il est capable de monter sur un cheval. Il est plus ou moins capable de grimper les montagnes si on s'amuse à sauter sur place pendant très longtemps. Et à partir de là, on dit que les jeux de rôle sont des jeux system-based. Là aussi, ça a posé des problèmes de vocabulaire. C'est-à-dire basé sur un système et l'interaction à l'intérieur de ce système. Alors, le gameplay émergent, c'est qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de ce système, sachant que vous jouerez d'autant plus que vous aurez mieux compris comment fonctionne le système. Donc la découverte du système fait partie du gameplay émergent. Quand on parle notamment de gameplay profond, pour le jeu vidéo notamment, on sous-entend peu de règles qui permettent beaucoup d'actions différentes à partir du moment où vous prenez le temps de découvrir la grande gamme d'interactions que ces règles peuvent avoir entre elles et ce qu'elles peuvent produire dans le jeu. J'espère que c'est à peu près clair.
Mais du coup, je pense que la différence fondamentale entre l'émergence en jeu vidéo et l'émergence en jeu de rôle, c'est que l'émergence en jeu de rôle, évidemment, elle surgit de la combinaison des règles. C'est évident. Hein. Enfin, si vous jouez à Pathfinder, je pense que vous le voyez de façon assez violente, quoi. Mais elle surgit aussi de l'absence de règles, en fait, de tout ce qui n'est pas mappé en fait en jeu de rôle. Et du coup, on va trouver. Enfin, le roleplay, carrément, c'est un produit de l'émergence en jeu de rôle, quoi. C'est quelque chose qui est apparu parce qu'il y avait tout un tas de choses qui n'étaient pas gérées par les premiers jeux, notamment les interactions sociales. Et du coup, on s'est mis à les gérer en dehors des règles, quoi. Donc le gameplay s'épanouit aussi, émergence s'épanouit en dehors des règles.
Est-ce que, selon ce que tu viens de dire, Thomas, le fait de compenser en jeu de rôle, c'est du gameplay émergent ? Je suis assez d'accord.
Ou je pense notamment aux règles de baratinage qui sont très peu utilisées du fait du souhait de générer du roleplay, ou parfois peuvent être utilisées d'ailleurs, ce que je dis est peut-être une assertion. On voit beaucoup en fait de contournement du système prévu sur ces mécanismes oraux de résolution entre l'environnement et le joueur qui font partie de ce gameplay émergent quelque part.
Il y a ça, il y a un truc qu'on a déjà mentionné dans une table ronde précédente qui est que théoriquement un jeu n'est composé que de règles. C'est ça qui établit quel est le but du jeu, quel est l'enjeu, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, pourquoi est-ce qu'on est là en réalité, etc. Le jeu de rôle a eu pendant si longtemps des règles si mal foutues de manière si large qu'on a passé notre temps à bricoler. C'est-à-dire que les rôlistes ont une longue culture de produire du jeu bien au-delà de ce que les règles définissent, parce que de toute façon, les règles sont systématiquement insuffisantes. Alors, je trouve que c'est très généreux de la part de mes petits camarades de considérer que ça fait partie du mode normal du jeu de rôle. Moi, je trouve que c'est juste un problème de design. Et donc, je suis plutôt partisan des jeux qui, notamment, investissent les règles sociales et qui fournissent un vrai gameplay social à partir du moment où c'est censé avoir une importance dans le jeu.
On n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez des choses à dire ?
Oui, j'ai un tout petit commentaire à faire. Pourquoi est-ce que nous essayons de définir gameplay ?
Je vous laisse répondre. Hein.
Non, c'est évident, oui. C'est un sujet très, très sec, très, très abstract. Mais nous sommes des joueurs. Nous sommes des meneurs de jeu. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de transmettre une sorte d'expérience autour de la table. On a un univers dans la tête, un idéal qu'on essaye de transmettre, de recréer autour d'une table. Et c'est ça qui nous oblige de considérer le gameplay. On ne commence pas, à mon avis, d'un point de vue où on essaie de créer un système parfait qui peut gérer tout dans un jeu. Alors on n'est pas les ingénieurs qui essayent de créer pour tout et enfin le système idéal pour jeu de rôle. On a un but quand on s'approche à la design d'un jeu, et c'est de transmettre une sorte d'expérience idéalisée qu'on a en tête, un peu comme un romancier, comme un écrivain, quand on écrit la fiction. Mais il y a une grande différence entre écrire la fiction et écrire un jeu de rôle. Et c'est ça. Il y a une tendance récemment d'un peu flouter la discussion en discutant la fiction dans le jeu de rôle. Et je crois qu'ils sont les choses tellement différentes que ce n'est pas tellement utile de décrire la fiction concrète parce qu'on joue un jeu. Enfin, on n'écrit pas un roman. Alors, c'est le but. Pourquoi est-ce qu'on essaie de définir maintenant le gameplay? C'est quoi notre but?
Alors, si je peux répondre concernant la question de la définition, le philosophe Wittgenstein mettait justement en garde les lecteurs et les penseurs sur l'idée d'essayer d'essentialiser les termes et d'essayer de leur trouver une définition qui soit finie, qui soit limitée. Et effectivement, quand on essaye de définir le gameplay en s'appuyant sur des pratiques qui sont diverses, c'est-à-dire le jeu de rôle, le jeu vidéo, qui ont, toujours pour reprendre Wittgenstein, des airs de famille, mais qui en fait sont complètement différents et n'impliquent pas les mêmes choses, ce ne sont pas les mêmes usages et pas les mêmes réflexions qu'il y a autour au moment de la création.
Du coup, c'est vrai qu'on définit des pratiques, il y a des pratiques multiples en jeu de rôle. Du coup, le gameplay, c'est une sorte d'animal farouche avec beaucoup de visages. Et il y a aussi, je pense, un problème en jeu de rôle par rapport à d'autres jeux. Je pense qu'en jeu de société et en jeu vidéo, on sait assez bien définir les gameplays. C'est-à-dire, par exemple, en jeu de société, vous avez les jeux allemands, les jeux améritrage, vous avez des deck building, des jeux d'enchères, des stop ou encore. On a plein de termes et ce n'est pas des termes uniquement de spécialistes. C'est-à-dire que tu vas dans les festivals et les joueuses, elles utilisent ces termes au jour le jour, quoi.
Oui, le gameplay sert à définir le genre ludique et le genre ludique à identifier les produits, notamment dans un catalogue.
Voilà. Et donc, en jeu vidéo, c'est pareil, on a des genres ludiques assez bien identifiés, le platformer, le FPS, bon, je ne vais pas tous les faire. Hein. En jeu de rôle, c'est moins évident, notamment, comme je l'ai dit, parce que souvent, les jeux ont plusieurs gameplays. Hein. Bon, par exemple, Ambre, que vous jouiez à la version classique ou que vous fassiez de la course au trône, ce n'est pas du tout la même façon de jouer. Quoi. Même si à partir des années 2000, il y a certaines scènes ludiques qui ont tendance à créer des jeux très spécialisés. Bon, Breaking the Ice, par exemple, c'est un jeu qui permet juste de jouer trois rencontres amoureuses, quoi. Donc là, pour le coup, il est très, très genré, très facile à identifier. DD4, on peut dire que le genre ludique, c'est du MMO sur papier, quoi, hein, donc c'est assez ciblé. Je voulais pointer et vous laisser me répondre d'ailleurs. Sur cette, est-ce qu'on a une difficulté en jeu de rôle à définir, enfin, à au moins proposer plusieurs catégories de gameplay de genre ludique, quoi?
Ben, je pense que cette difficulté à définir un peu ces types de gameplay, etc., elle vient aussi du fait que on s'adresse en tant qu'auteur de jeu de rôle, quand on écrit un jeu, quand on le design, on s'adresse à des rôle, le terme est mal choisi, du coup différent. On va s'adresser à la fois aux MJ, aux joueurs, pour les jeux à MJ. On va s'adresser quelque part un petit peu aux personnages aussi. Et du coup, il faut un peu réussir à visualiser ce gameplay à plusieurs niveaux et le rendre accessible à tous ces niveaux-là. Et ça va impliquer de concevoir le gameplay du jeu à travers ces interfaces supplémentaires. C'est pas juste on ouvre la boîte et on lit tous les règles ensemble en 5 minutes et on se met à jouer. Enfin, ça peut le devenir de plus en plus d'ailleurs. Mais le jeu de rôle tel qu'il était créé au début, c'était un média qui avait besoin de plusieurs interfaces pour fonctionner. Ça inclut de faire un gameplay qui a plusieurs interfaces, ce qui pose des problématiques.
Je ne comprends pas. Tu dis que d'abord, les jeux de rôle ont été créés avec plusieurs interfaces pour...
Alors, pardon, non, mais t'as raison, c'est pas très clair, je vais reformuler. Initialement, la table de jeu de rôle, c'est un livre, un MJ, des joueurs. Voilà. Donc, le livre, il est écrit à la fois pour le MJ et à la fois pour les joueurs. Même si, bon, il arrive souvent que les joueurs ne le lisent pas, le livre. Mais il faut quand même qu'il soit écrit pour les joueurs. Donc, le gameplay doit être transmis de la pensée de l'auteur au MJ, qui va avoir un rôle, des responsabilités, une autorité, et surtout qui va devoir avoir en tête des choses bien précises. Et en même temps, le gameplay, il faut le transmettre aux joueurs, qui n'ont pas les mêmes angles d'attaque sur le livre. Donc, il faut être capable de présenter sous deux angles d'attaque différents son gameplay. Voilà. Même si aujourd'hui, on a des types de jeux plus variés, où on n'a plus de MJ, et où dans ces cas-là, ça simplifie un peu la façon de transmettre le gameplay.
Oui, je suis d'accord, c'est évident. Mais c'est un problème, selon toi, ou c'est juste un aspect de... Par exemple, il y avait d'abord le livre pour, avec Dungeons & Dragons en première édition, par exemple, il y avait trois livrets, petits livrets bruns qui étaient... En général, le lecteur assumé était le meneur de jeu. Oui, c'était il y avait au début le fait que en général les livres de règles étaient secrets. Ce n'est pas à lire pour les joueurs. C'était quelque chose qui était dirigé vers les meneurs de jeu. Après ça, on a eu les guides de player, les guides de Dungeon Master, par exemple. Mais ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que tu dis que ça, c'est un problème ?
Alors, je ne dis pas que c'est un problème, c'est juste pour répondre à Thomas et dire qu'en fait, c'est ça qui rend la catégorisation des gameplays difficile, je pense. C'est juste ça. Je ne dis pas que c'est un problème, je ne dis pas que c'est mal. C'est juste que du coup, ça... rend les définitions plus difficiles.
Et encore, c'est quoi le but, ce que nous faisons ici ? On discute très, très sèchement le sujet, mais je veux être un peu plus pratique. C'est pourquoi nous discutons de ça ?
Moi, je vais avoir une réponse de technicien, parce que c'est comme ça que j'aborde le game design. Mon point de vue très technique sur les usages du gameplay, j'ai mentionné le genre ludique et le fait que ça servait autant aux auteurs à se positionner à l'intérieur d'un catalogue que aux acheteurs potentiels pour savoir quel genre d'expérience leur proposent les différents jeux de rôle qu'on met sur le marché. On a parlé des possibilités d'action. Normalement, votre expérience en tant que joueur de jeu de rôle, elle devrait être conditionnée par les moyens d'action qu'on vous a donnés, donc les possibilités déjà mentionnées. Et logiquement, ça ne devrait pas être tout le temps les mêmes pour les différents jeux. L'un des problèmes, à mes yeux, récurrents de la production de jeux de rôle, c'est qu'on joue à des tas de trucs extrêmement différents, toujours de la même manière. Et tu as complètement le droit de ne pas être d'accord. au passage... L'un des problèmes récurrents de game design, c'est qu'on considère qu'il y a jeu à partir du moment où les joueurs ont une influence sur le résultat de leurs actions. Je vous signale qu'en jeu de rôle, si vous n'aviez pas remarqué, une grande partie des systèmes de jeu ne vous propose que de lancer les dés. Enfin, vous avez défini votre perso, mais ça vous l'avez fait avant la partie. Vous allez faire évoluer votre perso, mais ça vous le ferez la plupart du temps entre les parties. Et donc pendant la partie, vous pouvez faire des choix, réfléchir, jouer un rôle et lancer des dés. On pourrait parfaitement vous donner plus de possibilités d'action que ça, et ça redéfinirait certainement la manière dont on aborde plein de jeux.
Alors je souhaite entendre Sarah, je te laisse répondre.
Oui, c'est juste, oui, tu parles d'un type de jeu de rôle qui existe il y a 15 ans, mais pas maintenant. On fait beaucoup de choses pendant le jeu maintenant depuis des années. On peut avancer les personnages pendant le jeu, pendant le, le gameplay. On peut créer, les joueurs peuvent ajouter les éléments au monde, peuvent créer leur propre narratif, peuvent même improviser leur propre façon de utiliser les règles pour effectuer l'échange dans le monde et dans le personnage. Alors c'est peut-être le début qui est basé bien sûr sur les jeux de miniatures, de figurines des années 70, mais non, c'est déjà une approche assez vieille, oui. C'est...
Assez vieille, mais encore dominante, très majoritaire.
À cause, je dirais, oui, bien sûr, à cause de Donjons et Dragons, oui, bien sûr, parce que c'est le jeu dominant. Mais même avec D&D et aussi avec Cthulhu, on voit apparaître maintenant les tendances qui sont influencées plus profondément par les mouvements narratifs de ces dernières 15 ans, par exemple. Alors ça commence à déjà changer. Oui, c'est la base. Mais personnellement, je dirais que peut-être tout le monde qui joue Cthulhu peut-être déjà voulait qu'il y avait des changements dans des règles pour introduire ces nouvelles sortes de gameplay.
Du coup, quelque part, je rebondis pour répondre à ta question. Au vu de cette évolution du jeu de rôle qui explose un peu dans les types de jeux qu'on a depuis 10 ans environ, est-ce que justement l'intérêt de cette table ronde, c'est pas d'élargir cette définition de gameplay pour sortir du carcan Donjons et Dragons et de l'adapter à la production aujourd'hui qui est beaucoup plus vaste et large et qui englobe du coup un game design bien différent et beaucoup plus large sur tous les jeux à narration partagée, etc.
Merci. Je pense, par rapport à vos conversations, je pense immédiatement au fait que le jeu en coprésence physique, donc des gens autour d'une table qui parlent, n'est plus justement la seule manière de jouer, puisque du coup on peut jouer sur des tables dématérialisées. Et ces tables, sans avoir forcément, sans être complètement étrangères aux tables en coprésence physique, introduisent néanmoins des différences en termes de manière de jouer, de manière de gérer son personnage, son histoire. Et les joueurs, lorsqu'ils vont aller acheter un jeu de rôle pour ensuite le jouer, n'ont pas accès en fait à un jeu qui est pensé pour le dématérialiser l'immense majorité du temps. Donc en fait, ils doivent déjà se munir de nouvelles compétences, des compétences informatiques, puisque créer une map, par exemple sur Roll20, c'est pas forcément évident. Savoir comment rentrer les macros dans le chat pour lancer les dés, c'est pas une évidence non plus. Donc voilà, c'est se doter de nouvelles compétences pour être capable de jouer sur un média différent et qui n'apparaît nulle part. Enfin, en tout cas, j'en ai jamais rencontré de jeu qui introduisait l'idée de pouvoir jouer en dématérialisé.
Une très rapide remarque à ce sujet. J'attends un peu au tournant le jeu de rôle Aventure, justement, qui sort sur une base dématérialisée, et j'espère qu'ils vont traiter cette question de comment jouer en dématérialisé dans le jeu.
Juste très rapidement là-dessus, puis je voulais enchaîner sur autre chose. Y a un gars qui s'appelle François Cespedes qui fait du jeu de rôle en Facebook Live. Et en fait, il fait une partie qui s'adresse à 50 à 100 joueuses en simultané. Donc, il y a plusieurs joueuses qui contrôlent le même personnage. Et grosso modo, elles utilisent les commentaires du Facebook Live pour dire comment elles agissent. Donc, ça, c'est un exemple de jeu pensé pour le virtuel. Sur les approches du gameplay en JDR, je pense que ce qui est important de dire, c'est que pourquoi on a du mal à définir le genre ludique, parce qu'en fait, les joueuses sont vraiment partie prenante dans la définition du genre ludique. C'est vraiment un jeu dont on s'empare et qu'on transforme. Donc en fait, le genre ludique, il n'est pas défini uniquement par le livre de jeu. Alors, comment on pourrait approcher le gameplay ? On peut l'approcher par le système de résolution. Il y a Gerard Sidonalefam qui parle de notion de tactilité d'une mécanique. Et là, on retrouve un peu cet aspect-là qu'on a en jeu vidéo, c'est comment on prend la mécanique en main, quelle est sa texture, quoi. Alors, d'un côté, ça paraît réducteur, parce que c'est vrai que tu me dis, ouais, on fait que lancer les dés, est-ce que le système de résolution, ce serait pas juste le plus petit dénominateur commun du roleplay, une espèce de maillon faible qu'il faudrait dépasser? Mais de l'autre, il y a quand même beaucoup de jeux qui ont décidé de concentrer le gameplay justement sur le système de résolution. Ainsi, Psyrun, en fait, chaque jet de dé a un train de conséquences extrêmement étoffé, quoi. Ce qui fait que le système de résolution, devient l'ossature du gameplay dans Psyrun. Je voudrais juste finir avant de te laisser la parole. On peut aussi faire des approches qui soient plus systémiques. Et en fait, on va classer les gameplays par parfum dominant du système. Moi, j'aime bien parler, par exemple, de jeux de rôle tactique, de jeux de rôle esthétique, de jeux de rôle moral ou de jeux de rôle social, quoi. Et en fait, le gameplay, ça va être comment ces quatre composantes s'articulent. à quel degré. On a parlé aussi des jeux transparents, jeux à secret, quoi. Le gameplay pourrait se définir par la part ouverte et la part fermée du système, quoi. Le partage des responsabilités peut être aussi un ingrédient du gameplay.
Sébastien, tu réagis?
Essentiellement sur le fait que trois dimensions sont données au gameplay. C'est hyper théorique, c'est très utile pour les game designers. Vous déciderez tout seul si ça a une signification pour vous. On considère, pour se faciliter la vie, le gameplay comme un volume. Ce volume, il a une profondeur, une largeur et une hauteur. La largeur du gameplay, c'est la diversité des actions de jeu et donc des possibilités d'action à l'intérieur du jeu qu'on vous propose. Si vous pouvez aborder un même problème de 3 ou 4 manières différentes, ces 3 ou 4 manières définissent la diversité, donc la largeur du gameplay sur ce point précis. En jeu de rôle, on a généralement un gameplay qui est toujours extrêmement large, puisque même si on n'a pas de mécanisme nécessairement dédié à toutes les actions, la quantité d'actions et la variété des actions que vous pouvez vous permettre en jeu de rôle est quasiment infinie. Donc notre largeur est délirante. La hauteur d'un gameplay, c'est le niveau de difficulté. Là encore, pour faire un parallèle avec les jeux vidéo, si vous jouez à Dark Souls, on considère que c'est un gameplay plus haut, plus exigeant, plus difficile. Vous allez rater plus souvent et vous allez devoir recommencer davantage pour obtenir des résultats que si vous jouez, par exemple, à... J'ai pas de jeu facile en tête, je ne les pratique plus. Pardon ? Que Candy Crush, merci. Parfait. Très bien. Et enfin, la profondeur du gameplay, c'est la quantité de jeux qui vous est proposé avec, par rapport au nombre de règles. Par exemple, on considère que le jeu le plus profond qu'on ait jamais inventé, c'est les échecs. Les règles tiennent en une page. Par contre, les possibilités stratégiques imaginables pour les échecs peuvent occuper plusieurs bibliothèques. Juste pour avoir des petites définitions pour se situer là-dedans.
Donc on parle à la fois d'un système de résolution, mais aussi d'un espace de modélisation. Tu parles de jeu de rôle en 3D, enfin d'un espace en 3D, quoi. C'est bien de ça qu'il s'agit ? Quelqu'un veut réagir ?
Comme moi, je suis un grand partisan de la modélisation, poum poum. Mon camarade a parlé des systèmes de résolution. Alors là, on n'est pas tous d'accord du tout, mais mon problème à moi, c'est résoudre la notion de résolution en jeu de rôle. Ça veut dire que on a une action, il y a une incertitude et on essaye juste de trancher cette incertitude pour savoir si ça réussit ou si ça rate. Je trouve ça hyper triste. Si je préfère que les systèmes de jeu se penchent sur la notion de modélisation, c'est pour qu'on arrive à, il y a une action, il y a une incertitude, la question est maintenant, comment est-ce que je peux, moi joueur, me démerder pour que ça marche et éventuellement gérer le risque que ça rate. Si d'un seul coup j'ai des choses à faire, des choses à tenter, des choses à réfléchir, il y a gameplay, j'ai des moyens d'action sur les résultats de mon personnage.
Après, du coup, pour tout ce qui est autour du système de résolution, comme disait Thomas, je trouve que dans le gameplay, il y a des choses extrêmement intéressantes qui sont faites quand le système de résolution est cohérent avec le propos du jeu. C'est rare, c'est pas souvent.
C'est le minimum syndical, en fait.
Mais non,
il faut l'avoir, oui, c'est... Les systèmes universels sont quelque chose des années 80, oui, et peut-être du début des 90, mais oui.
Et quand on voit, par exemple, je prends l'exemple du jeu Dread, où on résout les actions avec la tour de Jenga, ben, je trouve que c'est un exemple de gameplay particulièrement intéressant sur les effets que ça produit dans la partie, parce qu'on retrouve, d'un point de vue méta, donc dans le sentiment du joueur, les sentiments du personnage, la tension qui monte, etc. Et j'ai l'impression que c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre aujourd'hui, c'est vers ça qu'on se dirige, et c'est très bien.
Et je crois que c'est la première fois qu'on touche l'aspect fondamental des jeux de rôle, c'est le fait que c'est un jeu social, qui est un jeu qui est joué en groupe. On a parlé jusqu'à maintenant à les règles de résolution, à la modélisation de l'univers, et tout ça, on peut jouer seul, oui, mais c'est pas ça que nous jouons. Nous jouons un jeu qui est autour d'une table ou même une table virtuelle. Alors il faut faire attention que nous ne perdons pas dans les définitions qui sont plutôt sèches, plutôt abstraites. En fin de compte, ce que nous voulons faire, c'est de créer une ambiance de participation pour un groupe entier.
Noémie, là-dessus
Oui, justement, concernant le fait que Sarah ait l'impression qu'on délaisse l'aspect social et humain du jeu de rôle avec des définitions un peu sèches, ce que ça m'évoque, en fait, c'est qu'il y a un mécanisme qui pourrait être appliqué, justement, à l'aide des outils numériques et du jeu de rôle dématérialisé, c'est la simultanéité, enfin la quasi-simultanéité. C'est-à-dire d'inclure dans le gameplay, en termes de volume, pensez aussi en termes de temps. C'est-à-dire d'être capable de réaliser plusieurs actions à la fois. Je m'explique. Le joueur, lorsqu'il est face à son interface, son dispositif en dématérialisé, il a plusieurs onglets qui sont ouverts, il a plusieurs fenêtres. Et la pratique du jeu dématérialisé l'oblige à switcher, à se balader entre ces fenêtres. Si à ça, vous rajoutez une page Wikipédia consacrée au jeu de rôle, à tout l'univers de ce jeu de rôle, qui est créé et renseigné par les joueurs, et dans lequel il va devoir aller piocher des informations, sa feuille personnage, le fait de pouvoir discuter en toute discrétion avec le MJ, à pouvoir être en mesure aussi, en même temps que d'autres parlent et que d'autres pardon, occupent le canal vocal, de pouvoir écrire dans le chat des actions, que ce soit humoristique ou non, on a vraiment touché quelque chose de la quasi-ubiquité en fait, du joueur. Qui est capable de démultiplier ses actions et donc peut-être, voilà, c'est une question, peut-être son potentiel de joueur. Donc voilà, aussi penser peut-être à l'avenir le gameplay en termes de simultanéité.
Est-ce que tu as une idée, parce que j'avais cru retrouver à un moment le nombre d'actions que faisait un joueur en ligne par minute. C'est intéressant.
Alors,
ça.
Je l'ai pas mesuré, mais c'est dans mes objectifs à court terme, c'est-à-dire de pouvoir installer un système de captation sur l'écran de différents joueurs en partie pour voir tous les mouvements qu'ils font. Essayer de référencer ça. Mais bon, c'est un dispositif qui est lourd à mettre en place et qui est extrêmement intrusif. Donc ça demande une relation avec ces enquêtés un peu spéciale.
Tu parles des joueurs de jeux de rôle en ligne plutôt que les jeux vidéo, par exemple, oui.
Ah non, je parle vraiment du jeu de rôle dématérialisé, c'est-à-dire du jeu de rôle sur table, mais porté à travers des logiciels d'audioconférence, des tables virtuelles. Voilà. D'accord.
Je voulais préciser, quand je disais tout à l'heure que la cohérence entre le gameplay et l'univers et les thèmes narratifs et les intrigues qu'on essaie de porter à travers un jeu de rôle était le minimum syndical. En fait, il y a même un nom pour étudier spécialement, enfin pour décrire et donc nous permettre d'étudier les nombreuses fois où le gameplay d'un jeu ne correspond pas à ce qu'il espérait raconter. C'est ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative. C'est un truc dont on se préoccupe beaucoup en jeu vidéo, mais vous verrez la plupart des théories en termes de gameplay ou de game design viennent du jeu vidéo parce que c'est là qu'il y a du pognon. Donc c'est là qu'on est prêt à vous payer pour réfléchir plus longtemps. Mais cette dissonance ludonarrative concerne les très nombreux cas où ce que vous êtes en train de faire comme joueur n'a aucune espèce de rapport avec ce que l'histoire raconte et donc très fréquemment ce que votre personnage est en train de faire dans cette histoire. Si par exemple... on joue un jeu de KPDP où les combats sont censés être rapides et bondissants et où ça se traduit en termes de gameplay pour vous les joueurs par 45 minutes avant de pouvoir jeter les dés, c'est de la dissonance ludonarrative. Elle se place essentiellement au niveau de l'esthétique et du rythme, mais elle pourrait aussi se placer dans plein de jeux de rôle sur le fait qu'on vous propose d'être les sauveurs du monde, beaucoup de jeux partent du principe que vous êtes gentil et que vous essayez d'aider les autres, etc. Et à partir de là, l'essentiel du gameplay, ça va être tuer des monstres. C'est assez curieux. C'est une dissonance hyper courante.
Alors, je voulais revenir sur ce que tu disais, Guylaine, avec le dread qui nous fait ressentir la même tension que le personnage. Toi, avec le jeu dématérialisé où il y a une sorte de saturation en fait, un peu cognitif, quoi. Et puis l'exemple que tu donnes, Sébastien, avec le combat de mousquetaire qui est censé être bondissant et qu'on joue en 45 minutes. En fait, grosso modo, le jeu, c'est la voiture. Le gameplay, c'est comment on conduit la voiture. Mais ce qu'on vous vend, c'est pas ça, en fait. Ce qu'on vous vend, c'est l'expérience que vous allez avoir en conduisant cette voiture. En fait, il y a quelque chose de très cyberpunk dans ce qu'on cherche à obtenir. C'est qu'on cherche à obtenir un raccord, une connexion entre la joueuse et son personnage, entre la joueuse et l'univers, entre la joueuse et la narration, bref, entre la joueuse et le jeu. Et ce raccord, en fait, c'est ce que Dorian Chandelier appelle le game feel, la sensation de jeu. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas comment on joue au jeu, c'est qu'est-ce qu'on ressent en y jouant. Je voudrais juste finir en donnant quelques briques qui me semblent être constitutives du game feel en jeu de rôle. Il y a des oppositions. Par exemple, il y a la, Il y a la sécurité émotionnelle contre, au contraire, un inconfort émotionnel qui serait recherché, quoi. Ça, c'est un élément de game feel. Il y a la fluidité du jeu contre la précision, quoi. Donc, en fait, tout va dépendre de votre rapport à l'immersion, parce que vous allez rechercher des choses différentes. Voilà, les éléments du game feel, bah, c'est l'immersion, justement. Hein, ça me paraît assez contutif. C'est le rythme, hein, le combat de mousquetaire et tout. On recherche, en fait, une sensation de rythme qui nous paraît cohérente avec justement, ce que propose le jeu ou ce qu'on recherche dans le jeu. Parce qu'encore une fois, hein, on n'est pas que client du jeu, on est aussi fabricant du jeu en tant que joueuse, quoi. La granularité, c'est-à-dire vraiment le degré de précision, c'est à la fois à quel point l'univers de jeu est précis dans les conséquences, à quel point il y a des procédures qui s'enchaînent, mais c'est aussi à quelle vitesse on traite le temps, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait du micro-tactique à la Donjons et Dragons, où grosso modo on joue quasiment heure par heure, quoi, et voire seconde par seconde quand on est en combat, ou est-ce qu'on fait des jeux comme Saga of the Vicelander qui s'écoulent sur des générations, c'est-à-dire qu'il va se passer 200 ans durant une partie, quoi. Il y a aussi, et pour finir, les éléments qui me paraissent importants aussi dans le game feel, c'est la justice. C'est est-ce que le jeu est juste avec moi, joueuse, ou est-ce qu'il est punitif, sachant qu'il y a des clientes pour les deux modes, quoi, pour les jeux qui soient justes, équitables, et pour les jeux qui soient au contraire punitifs, parce qu'un jeu punitif, notamment, ça donne une impression de réalité virtuelle solide qui répond fortement, quoi. Et pour finir, il y a la justesse.
Excuse-moi, est-ce que tu peux juste donner un exemple de jeu punitif? Là, j'ai du mal à saisir. Juste.
Eh ben, un jeu punitif, c'est un jeu qui, par exemple, si je prends un exemple sombre, c'est un jeu de rôle d'horreur,
oui.
Où tu peux essayer de prendre plein de décisions tactiques, mais en fait le jeu va les invalider, quoi.
D'accord, merci.
Et donc, Noémie, tu voulais réagir?
Oui, j'ai juste une toute mini intervention à faire. Pour juste te reprendre, j'ai surtout pas parlé de saturation. C'est hyper important parce que le multitâche, en fait, est au cœur de toutes nos activités sur l'ordinateur et sur Internet, donc c'est vraiment pas de la saturation.
Merci. Je vais me permettre de te remercier, du coup, Thomas, pour ce dernier point. Je veux garder quand même un peu de champ au public. Un petit dernier mot, peut-être, Sébastien? Ok, très bien. Public, nombreux. Si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Un micro va pouvoir se balader, donc je vois déjà des mains se lever. Je tiens à vous remercier pour la dynamique qui a été très, 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 très efficace. Forme de gameplay. On est tout oui.
Bonjour. Vous avez beaucoup parlé des règles, en fait, d'aspects, je trouve, assez mathématiques du jeu. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une influence beaucoup plus artistique, esthétique? C'est-à-dire avec les mêmes règles sur deux jeux différents, avoir un gameplay différent. Une expérience qui ne pourra pas être la même. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. Et du coup, avec je sais pas, les visuels, le scénario, avoir un gameplay différent, en fait.
C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du scénario.
Pour moi, les règles ne sont qu'un outil. Et c'est les règles efficaces sont les règles très flexibles qu'on peut utiliser dans plusieurs environnement, plusieurs scénarios, plusieurs ambiances. Ça ne veut pas dire que les règles sont tout à fait universelles, bien sûr, mais oui, je crois que c'est un système de règles efficace peut se adapter à plusieurs ambiances, même dans un seul jeu. C'est forcément nécessaire, oui.
D'abord, sur les règles comme la partie mathématique du jeu. C'est pas tout à fait vrai, c'est la partie mécanique. Et la mécanique en jeu de rôle, comme dans pas mal de jeux narratifs, elle peut être extrêmement langagière. Les choses se produisent parce qu'on les dit. Au passage, c'est un nom, on appelle ça la parole performative, mais version courte, beaucoup de règles de jeu reposent sur le texte, sur le langage, sur le roleplay, sur la manière dont vous vous exprimez, plus que sur les maths, en tout cas pour nous en jeu de rôle. Maintenant, si le gameplay recouvre notamment vos possibilités d'action, évidemment, des scénars différents, amenant des ambiances différentes et des enjeux différents, devraient reposer sur des possibilités d'action différentes. Si un scénar qui se résume à peu de choses près à identifier qui est le grand méchant dans le village pour lui faire sa fête, décide de mettre nettement en valeur la partie identification, ça devient du jeu d'enquête. Si on décide de mettre nettement en valeur la partie cassage de gueule, ça devient du jeu de baston. Et on peut parfaitement imaginer que ce soit un jeu hyper social où en réalité le but n'est pas de lui casser la gueule, mais une fois qu'on l'aura identifié, de comprendre pourquoi est-ce qu'il est méchant avec le village, résoudre son petit problème, etc. Et là, dans ce coup, ça devient un jeu hyper social. Mais ça va dépendre des possibilités d'action que t'offre le jeu, possibilités d'action théoriquement définies par les règles comme étant le gameplay du jeu. Après, la part d'esthétique et de narration, elle s'attache par-dessus. Mais on sait en fait difficilement situer la limite entre le gameplay, le roleplay, la narration, la partie mécanique. C'est des choses qui s'engrènent énormément et qui sont très attachées les unes aux autres en jeu de rôle. Et la limite est encore à l'étude, quoi.
Et paf.
Est-il possible qu'un des problèmes de gameplay du jeu de rôle vienne du fait qu'un meneur de jeu ne sait pas prendre de décision? Ma réponse immédiate va être non, parce que c'est pas à lui d'en prendre, c'est au joueur de prendre des décisions.
Moi, je voudrais revenir un petit peu sur la... J'ai l'impression que ce que vous avez dit, c'est qu'il y a les règles, on les applique, on lance les dés pour savoir si ça marche ou pas. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas parlé de la possibilité d'influence des joueurs sur les résultats. Typiquement, j'ai vu énormément de tables où le MJ accorde des bonus sur les jets sociaux si le joueur fait un bon roleplay. Et j'ai même souvenir d'un jeu, je crois que c'était Feng Shui, où dans les règles, c'est précisé que si le joueur décrit une action d'éclat, par exemple, je fais un triple salto avec deux flingues, plutôt que je lui tire dessus, il aura aussi des bonus sur son jet.
Romaric Briand, quand il définit le système de jeu de rôle, il a tendance à dire que c'est les règles, bon, l'univers, le scénario, mais aussi les joueuses. C'est-à-dire que les joueuses, elles font partie du système. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as très bien souligné, les joueuses ont une influence constante sur le gameplay.
En fait, je voudrais juste dire quelque chose. C'est pas parce qu'on parle de règles qu'on parle de dés. Hein. Enfin, juste pour être sûr qu'on est tous d'accord.
Entre autres choses.
Dans les règles, on peut avoir très bien quelque chose d'écrit qui dit n'hésitez pas à valoriser le roleplay. Enfin, ça se lit dans un jeu de voir que voilà, le roleplay peut être valorisé vraiment au sein des règles. Donc ça ne s'oppose pas forcément.
Moi j'ai mentionné un peu plus tôt le fait qu'à mes yeux il n'y a jeu que si les joueurs ont une influence sur le résultat. Donc la réponse à votre question, c'est de mon point de vue, tous les jeux de rôle qui ne permettent pas aux joueurs d'influencer le résultat, y compris le résultat des dés, parce que si c'est ça qui tranche le résultat d'une action, c'est ça qui est important, en réalité ne proposent pas de gameplay, ce sont des jeux de hasard. Et alors là ça devient rigolo, les jeux de hasard n'ont pas de gameplay, ils ont du hasard à la place. En l'occurrence, il n'y a pas que Feng Shui, il y a plein de jeux qui permettent, par exemple, de miser des pions dans son action pour augmenter ses chances de réussite. Il y a plein de jeux comme Fate, dont Sarah est très amatrice, qui permettent aux joueurs d'utiliser comme des ressources les traits constitutifs de leur personnage pour influencer le résultat des dés. Il y a des jeux à base de cartes où on vous permet de commencer par diviser le deck en deux ou de faire des choix à l'intérieur, voire de constituer un deck. J'entends, il y a des jeux de rôle avec des cartes où on fait de la création de deck, si ça vous intéresse, ça existe. Donc tout ce qui permet d'avoir une influence peut être en fait extrêmement vaste d'un point de vue mécanique. Il y a plein de moyens pour faire ce genre de choses. Pas seulement d'écrire, mais d'écrire peut en faire partie. Et à ce moment-là, ça redevient un jeu descriptif, un peu littéraire, un peu basé sur le langage. Quoi.
Sarah, si tu veux toi aussi répondre.
Oui, c'est juste tout simplement que ce que tu as dit, Sébastien, sur le fait qu'on ne veut pas un jeu du hasard, oui, quand on crée un jeu de rôle, mais aussi il faut que l'élément ludique d'un jeu de rôle reste dans le jeu, que ce soit pas seulement une simple négociation sans règles entre les joueurs. Et je crois qu'il y a un danger de se perdre un peu en utilisant les terminologies utilisées plutôt pour les jeux vidéo, en essayant de décrire les jeux de rôle, parce qu'il y a un aspect qui, on dit en anglais le MGF, le Maximum Game Fun, qui est toujours la règle de base de tous les jeux de rôle. C'est le fait que, oui, il y a une négociation pour déterminer le réussite ou le résultat d'une action qui est partiellement basée sur les règles, mais aussi partiellement basée sur le consensus autour de la table, ce qui doit arriver dans le scénario, par exemple. Et ça, c'est aussi important pour moi que toutes les règles aussi.
Je vais me permettre du coup de clôturer là-dessus. Merci pour cette fin sur la notion de fun. Le fait est qu'il est l'heure de sortir, donc je vais vous demander de respecter effectivement ce que je vous avais demandé à la base, de tout sortir.